Panorama de la Bretagne, un podcast du Télégramme. Politique, culture, démographie, économie, environnement, éducation. Comment se porte la Bretagne aujourd'hui? Quels sont les grands défis qui l'attendent? Du A d'Armorique au Z de Breizh, le Panorama de la Bretagne, c'est le podcast qui vous dit tout. Aujourd'hui, l'aménagement du territoire. La Bretagne a gagné les défis de l'après-guerre pour rattraper son sous-développement, mais elle doit continuer à s'inventer face aux défis de la modernité. Les questions des territoires, des langues et de la culture sont centrales. Jean Olivreau, géographe, universitaire, auteur de nombreux livres sur l'aménagement du territoire et le développement régional, nous explique comment, finalement, la Bretagne et les Bretons trouveront leur chemin d'avenir en se retrouvant eux-mêmes. Après la guerre, le CELIB a théorisé le problème breton et la Bretagne s'est développée à marche forcée. A-t-elle aujourd'hui réglé son problème breton ?
Oui, depuis les années 50, en fait, on a eu un essor exceptionnel de la Bretagne que les gens parfois ne perçoivent pas. On oublie par exemple qu'en 1950, il y avait la moitié des fermes sans électricité et 90% sans eau courante. Que les routes étaient quasiment impraticables encore, etc. Et à partir de l'idée d'un problème breton qui a été matraqué par le CELIB, alors dès l'ouvrage de Martrin en 1947, puis après on a toute une série d'études de 50 à 60 même hein, sur le problème du charbon en Bretagne, le problème agroalimentaire en Bretagne, etc. On a une sensibilisation des Bretons pour effectivement rentrer dans ce qu'on appelle la croissance. Le progrès, dans l'électrification, il faut s'en sortir dans les grands équipements, dans les routes, avec le plan routier breton qui sera obtenu qu'en 69, avec l'annonce du général de Gaulle. Et une Bretagne, effectivement, qui connaît un progrès invraisemblable, et avec des choses qui changent, qui basculent à une vitesse inouïe. On peut prendre à Ploemeur-Bodou, où tout d'un coup, ben voilà, il y a le radome qui arrive, et la première retransmission au monde d'images en direct en 61-62, en août. Et du coup, effectivement, une Bretagne qui bascule complètement dans les usages. On passe de 54% d'employés dans l'agriculture en 1954 à 2% aujourd'hui. Donc tous les métiers changent, toutes les activités changent, la société se tertiarise, etc. Et à mon sens, quelque part, l'arrivée du TGV à Rennes en 2017 isole la fin d'une étape. Effectivement, la Bretagne a rattrapé son retard. On est arrivé à peu près dans les moyennes françaises sur énormément d'indicateurs. On en dépasse pour certains, on est un peu en dessous pour d'autres. Et un immense chemin a été accompli par nos aïeux.
Attraction et répulsion marquent les relations entre Paris et la Bretagne. Est-elle toujours tentée de se définir par opposition ?
Je pense pas que les gens soient définis contre la France. La preuve, justement, c'est qu'on leur a demandé quelque part de réussir en français, puis qu'ils l'ont réalisé, y compris dans l'éducation, avec une langue qu'on a interdite à un moment très clairement dans les écoles, de Monzy en 1870. Pour l'unité de la France, la langue bretonne doit disparaître, enfin voilà. Et des gens à qui on a demandé de réussir en français et qui l'ont fait, même mieux que les autres. Et quelque part, justement, le bouquin de Martrin en 1947, qui joue un rôle, c'est le problème breton et la réforme de la France. C'est-à-dire qu'il associe la région de France, qui a la plus grande masse démographique et d'identité, à une union pour finalement que l'ensemble se développe et connaisse effectivement cette croissance un peu trente glorieuse qu'il y a eu, quoi. Donc je ne crois pas que les Bretons s'opposent à ça. En réciprocité, il est évident que cette évolution a entraîné la perte extrêmement forte des fondamentaux de la Bretagne. Et je pense notamment à la langue, qui est une réelle façon de voir le monde, ou aux langues de Bretagne, avec le gallo, qui sont des véritables logiciels de pensée, extrêmement utiles pour l'environnement, extrêmement utiles pour construire demain. Et là, effectivement, c'est presque plus la France qui est contre la Bretagne, en ce sens qu'ils ont autorisé le développement breton, mais n'ont jamais permis que les gens associent à ça leur culture, leur identité, les racines, qu'il puisse y avoir du bilinguisme, du trilinguisme ou plus. Et justement, à mon avis, c'est là quel enjeu aujourd'hui. C'est-à-dire de concilier effectivement des territoires et notamment de retrouver une identité qui est utile, une identité nécessaire à l'heure des défis écologiques.
En 2015, la Bretagne a-t-elle finalement gagné ou perdu à demeurer dans les frontières de ses quatre départements ?
Tous ces problèmes institutionnels posent la question de fond du rôle exercé par les institutions. Ont-elles un rôle essentiel sur la vie des gens ? Pour une part, oui. Mais sinon, sur cet enjeu de la Bretagne à 5 ou de la Bretagne à 4, on a beau dire que la Bretagne est à 4 départements, et ben on constate que des structures dont on parle souvent, nos produits en Bretagne, ben voilà, tous les supermarchés et hypermarchés de Loire-Atlantique distribuent ces produits et les consommateurs les achètent. On constate qu'ils ont fait une immense enquête en Loire-Atlantique pour demander où les gens avaient l'impression, les touristes avaient l'impression d'être présents, ils répondaient tous Bretagne. Et donc, du coup, ils ont créé une appellation Bretagne plein sud pour avoir plus de monde. C'est-à-dire que les professionnels du tourisme, qui n'étaient surtout pas des militants, ont pris ça. On constate que les gens en Loire-Atlantique, ben voilà, ils habitent Montoire de Bretagne, ils habitent Faye de Bretagne. Bon, c'est comme si on disait aujourd'hui à quelqu'un d'Aix-en-Provence qu'il habitait Rhône-Alpes. Enfin, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Et je crois qu'au-delà des institutions, il y a un bon sens populaire qui fait que la Bretagne existe déjà, quelque part, sur 5 départements. Après, le pouvoir des régions est très faible, on est à 1,4 milliard d'euros, c'est-à-dire que le budget de la région Bretagne est inférieur au budget de Rennes et Rennes Métropole réunies, ce qui fait qu'on est véritablement, comme le dit Romain Pasquier, des nains politiques et surtout des nains financiers. Et du coup, moi j'ai l'impression que cette Bretagne à 5, c'est tout simplement la cohérence d'un territoire. Il y a besoin de l'affirmer. On a eu des erreurs tragiques liées à cette séparation. On peut penser par exemple à la décision, alors que là c'était promis à Brest ou à Nantes, notamment à Brest, d'avoir le grand centre européen pour la surveillance, etc. Il y a eu des rivalités invraisemblables entre Bretagne et Pays de la Loire, puis après entre Brest et Nantes, et du coup c'est parti à Lisbonne. Bien joué, c'est quand même quelque chose qui aurait apporté beaucoup, beaucoup pour le Finistère. Et on a d'autres exemples, hein, y compris dans l'échec de Notre-Dame-des-Landes. Hein, c'était Rennes son TGV et Nantes aura son aéroport. Finalement, Rennes a eu son TGV et Nantes n'a rien eu. Et je crois que ça pose beaucoup plus la question d'avoir un territoire organisé à l'échelle de la péninsule. Comment on construit ce bout de terre, ce quai posé sur la mer, qui a une cohérence en lien entre la terre et la mer. Et là, il y a énormément de choses à construire.
Comme par le passé, l'action militante sera-t-elle un moteur de la Bretagne à venir ?
À mon sens, il faut essayer de revenir un peu aux fondamentaux des choses, c'est-à-dire qu'on a basé toute la croissance et l'évolution bretonne sur effectivement une vision qui était appelée progrès, où on a aussi enlevé 240 000 km de talus, on a fait aussi différentes impasses, etc. Et aujourd'hui, en fait, il y a une chance, quelque part, dans toutes les turpitudes actuelles, c'est que là, effectivement, il y a une question claire qui se pose, c'est comment on peut agir pour l'environnement, pour l'espace, pour la nature, nature en breton, parce que c'est pas tout à fait les mêmes choses dans la vision en bretonne, en breton ou en français. Et là, en fait, justement, on voit apparaître une sorte de radicalisme parfois écologique, on risque d'avoir un terrorisme écologique. Et je crois que justement, l'inverse, c'est pas d'être militant, mais c'est de faire des choses. De faire des choses. Et faire les choses, c'est plus s'inscrire dans le temps long en redécouvrant la variable du territoire, des territoires, de leur diversité, parce que les territoires sont compliqués. Et à partir de là, voir ce que l'on peut faire concrètement pour construire. Et moi, ce qui me frappe, c'est comment la Bretagne bouge à ce sujet dans tous les sens. Dans tous les sens. On le voit avec tout ce qui, les projets sur les algues qui sont utilisées pour le plastique, tous les projets pour l'énergie, à Logminé, à Pontivy maintenant. Enfin, c'est en train de bouger de tous les côtés parce qu'il y a tout en Bretagne pour faire des richesses. On a tout pour créer des milliers d'emplois à la fois de proximité et des emplois en fait pour créer une Bretagne vraiment propre et prospère et qui a un potentiel avec une nature qui bouge tout le temps, enfin pour les énergies renouvelables qui est absolument invraisemblable. au moment où on est encore en train d'importer l'énergie et par exemple faire une centrale à gaz à l'Andivisio qui me semble complètement hors du temps. Hors du temps. Et revenir aux fondamentaux invite à comprendre la culture de la Bretagne, son histoire, son passé, les échecs passés, mais aussi les réussites. Il y a des fondamentaux en fait d'un lieu qui s'appelle Bretagne. Et cette interaction entre des gens et un bout de terre qu'ils occupent, des façons aussi de s'associer entre les gens, un esprit coopératif, mutualisme qui a parfois été perdu, qu'il faut réenchanter. Il y a toute une série de choses ici qui montrent effectivement que demain peut être extrêmement constructif en Bretagne. Et à ce titre-là, il y a une chose moi, que je crois vraiment essentielle, c'est notamment la langue bretonne. Et c'est un logiciel de pensée différent, c'est une autre façon d'envisager les relations entre les gens, de concevoir les lieux avec une multiplicité de noms qui veulent dire quelque chose, qui sont parfois attaqués aujourd'hui d'ailleurs. Et là, effectivement, je crois qu'il faut beaucoup plus effectivement construire et avancer que de militer pour telle ou telle chose finalement, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Beaucoup d'actions sont aujourd'hui, me semble-t-il, à mener.
Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode du Panorama de la Bretagne. Vous qui souhaitez mieux connaître et mieux comprendre la Bretagne d'aujourd'hui, retrouvez ce sujet et bien d'autres dans les prochains épisodes et dans les pages du Panorama de la Bretagne, une série du Telegram à écouter ou réécouter sur notre site web ou grâce à toutes les applications de podcast.